tout de suite le journal d'Antoine Denecher. Bonjour à vous.
Bonjour. 12 jours après l'attentat de Nice, une polémique porte depuis dimanche sur les pressions supposées contre une policière municipale de Nice chargée de rédiger un rapport sur le soir du 14 juillet. Ce matin sur France Culture, le principal syndicat de policiers municipaux en France appelle à recadrer le débat sur l'essentiel, à savoir la réalité du dispositif policier et puis les responsabilités telles qu'elles sont établies par la loi.
Et dans votre journal, Antoine Denecher, nous irons également aux États-Unis où Bernie Sanders vient de s'exprimer à la Convention démocrate. Il appelle ses partisans à la raison et au vote Hillary Clinton, elle fera une présidente exceptionnelle, dit son ex-adversaire à la primaire.
Et puis alors que s'ouvrent les JMJ en Pologne, focus dans ce journal sur les jeunes catholiques de France, ils seraient un peu plus nombreux désormais. Ce sera d'ailleurs le thème des matins d'été, Olivia Gisbert, ces journées mondiales de la jeunesse.
Oui, le pape de la mondialisation en Pologne, première visite d'importance en Europe. Qu'est-ce que ça peut nous dire de lui et de ses ambitions pour la chrétienté aujourd'hui? Avec nous, l'éditeur Jean-François Colosimo et le journaliste polonais Piotr Moszynski.
Après l'attentat de Nice, le débat en France, voire la polémique, est donc loin d'être terminé. Dimanche, une policière municipale assurait avoir subi des pressions de la part du cabinet de Bernard Cazeneuve pour modifier son rapport sur le dispositif policier du 14 juillet. Une version en partie contredite hier, puisque selon plusieurs médias, Sandra Bertin, c'est son nom, a été en contact non pas avec le cabinet du ministre, mais avec l'état-major de la Direction nationale de la sécurité publique. Pour l'avocat de la policière, cela ne change rien de toute façon aux pressions qu'elle a subies et au fait que la personne en question, elle, a dit qu'elle travaillait pour le cabinet de Bernard Cazeneuve. La policière, d'ailleurs, a effectué hier un signalement au parquet. Sur le plan politique, Manuel Valls et François Hollande ont réitéré leur soutien au ministre de l'Intérieur. Pour le chef de l'État, c'est la justice qui doit établir la vérité et personne d'autre. Au-delà de cette polémique, il est temps de recadrer le débat sur l'essentiel, estime ce matin le porte-parole du syndicat de défense des policiers municipaux le plus important en France, Philippe Steve.
Si j'étais dans une situation identique, je réserverais mes déclarations à l'inspection générale de la police nationale, qui enquêterait, hein, c'est quand même une institution indépendante, et au procureur de la République, qui est mon supérieur direct au plan judiciaire. Là, actuellement, quel est l'intérêt de dire qu'elle a subi des pressions? C'est possible, mais c'est à contre-feu. Ça disperse de la question première. Qui était responsable de la sécurité ce soir-là sur la promenade des Anglais? Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé exactement? Et qui précisément? Comment était disposés les fonctionnaires, qu'est-ce qu'on avait prévu comme dispositif, etc. C'est ça qui est important. Et qui est légalement le responsable à la base de ça. Et on le sait qui est le responsable sur une manifestation publique dans une commune. En l'occurrence, le maire. Le maire qui est, il faut que tout le monde le sache bien, il est responsable de la sécurité publique au niveau communal. Il est chargé du bon ordre dans les manifestations. Et c'est le représentant de l'État sur la commune. Au-dessus de lui, il y a le préfet. Voilà. Moi, je ne comprends pas qu'on dise... Le responsable, c'est la maison d'en face. C'est une coproduction. Il y a la police nationale, il y a la police municipale, il y a le maire, il y a le préfet sur le dispositif. Il y a peut-être eu des pépins, il y a des choses, mais on ne peut pas dire, c'est pas moi.
Des propos recueillis par Éric Chavroux. Alors, ça va mieux ou pas? Hier, l'INSEE a publié une note de conjoncture confirmant une embellie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. On aura un autre élément de réponse ce soir avec la publication des chiffres du chômage pour le mois de juin. Et un autre événement est attendu cette semaine sur le plan économique. Après une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'EDF qui est prévue aujourd'hui, le conseil d'administration de l'électricien doit avaliser jeudi une augmentation de capital de 4 milliards d'euros et surtout officialiser le projet très controversé de construction à Hinkley Point de 2 réacteurs nucléaires, Jean-Marc Chardon.
C'était une course de vitesse entre 3 syndicats et l'état-major d'EDF que l'on assiste depuis ces dernières semaines. CGT, FO et CFE-CGC ont mis en garde contre un projet qui, à les entendre, risque de se transformer en gouffre financier pour EDF au moment où ses finances sont grevées d'un lourd endettement, chahuté par la reprise de la branche réacteur d'Areva, tiraillée à cause des prix bas sur le marché de l'électricité, alors qu'il faut en même temps assurer de gros travaux de maintenance du parc nucléaire. Un risque amplifié par les effets possibles du Brexit. Alors, les organisations syndicales ont demandé un rapport sur le dossier, espérant au moins la suspension de toute décision. Entre-temps, elles ont demandé à François Hollande d'intervenir pour éviter, disent-elles, tout passage en force. Mais le gouvernement, qui soutient à fond l'état-major d'EDF, a mis tout son poids avec Emmanuel Macron pour autoriser l'opération, car derrière Hinkley Point, c'est aussi l'avenir de l'entreprise qui se joue dans le monde, montrer sa capacité à assurer le plus grand chantier de ce type outre-Manche. Pas pas de place ni pour le doute ni pour le report de décision. C'est aussi la position de la CFDT du nucléaire qui s'est singularisée en jugeant indispensable de participer au chantier de construction d'Hinkley Point.
7h05 sur France Culture. Aux États-Unis, la convention démocrate est bel et bien lancée à Philadelphie. Le candidat malheureux à la primaire, le sénateur Bernie Sanders, vient de s'exprimer. Il a tenté de convaincre ses partisans de voter Hillary Clinton malgré tout, Frédéric Carbone.
Quand il monte sur la scène de l'aréna de Philadelphie, Bernie Sanders est accueilli comme s'il était le candidat des démocrates. 2 minutes d'ovation debout. Bernie Sanders semble ému, il remercie plusieurs fois, il demande à ses délégués de voter pour lui aujourd'hui et il leur promet que la révolution continue. Mais il n'est pas là pour un énième meeting, il est là pour faire élire Hillary Clinton. Je connais Hillary Clinton depuis 25 ans. Hillary Clinton sera une extraordinaire présidente et je suis fier ce soir d'être à ses côtés. Et Bernie Sanders affirme qu'il fera tout pour favoriser la victoire. Ce n'est pas un ralliement du bout des doigts. Il énumère tous les sujets essentiels sur lesquels il est en accord avec Hillary Clinton. Parfois, une partie de la salle manifeste sa désapprobation. C'est que dans les rangs de ses partisans, le deuil de la candidature Sanders est difficile.
People love him because he's clean.
On l'aime parce que lui, il est propre, dit cette déléguée, qui dénonce un parti corrompu et qui n'envisage pas voter Clinton. À tous les sceptiques, Bernie Sanders rappelle la menace Trump et il affirme que les démocrates ont le programme le plus progressiste de leur histoire. Il s'agit pour lui d'appeler à la raison et il le fait avec passion.
Un reportage de Frédéric Carbone à Philadelphie pour France Culture. Plus de 2 millions de personnes, dont 35 000 jeunes Françaises, sont attendues à Cracovie, en Pologne, à partir d'aujourd'hui. C'est le début des Journées mondiales de la jeunesse, un événement créé il y a plus de 30 ans par Jean-Paul II. Et selon un sondage publié hier par le quotidien La Croix, les 18-30 ans en France seraient plus croyants et plus religieux que leurs aînés, Willy Moreau.
Pour Juliette, la religion, c'était plus une affaire de personnes âgées, quelque chose d'un peu dépassé. Et puis, à force d'aller à des ateliers d'aumônerie, il y a un an, passée la vingtaine, elle saute le pas et se fait baptiser. Comme elle, si les gens de son âge se tournent davantage vers la religion, c'est parce qu'elle est plus en phase avec la jeunesse, explique-t-elle.
Pour moi, j'imaginais les sœurs, vous savez, dans les couvents, prières de 6h du matin à 18h, pas forcément au courant des sujets d'actualité. Les sœurs, étant très ouvertes, on parle de drogue, de sexualité, elles essayent de nous faire comprendre les préceptes de la Bible et essayer de mettre en concordance notre vie actuelle et ce qui est demandé dans la vie.
Juliette et plus globalement les 18-30 ans sont plus croyants que leurs aînés. Presque la moitié pense que Dieu existe quand moins de 4 Français sur 10 l'affirment. Nicolas, lui, y croit. Il se convertit à l'âge de 19 ans. Depuis, il vit sa foi au grand jour. Il porte la croix autour du cou, prie, se rend à la messe. Pas toujours simple à concilier avec sa vie d'étudiant.
Mes amis, ils ont vu moi, qui par exemple... Quand on faisait des soirées samedi soir, me dire « je me couche pas trop tard, le dimanche matin, je vais aller à la messe ». Et donc ils m'ont souvent interpellé sur ce point-là. Ils disent « ah, c'est super bizarre, pourquoi t'as envie d'aller? Tu pourrais dormir le dimanche matin, faire une grasse mat ». Je continue de sortir, mais je m'adapte. Soit je vais le dimanche soir, soit la veille. Mais je trouve toujours une solution pour ne pas sauter, pour pouvoir concilier les deux en fait.
Si pour Juliette et Nicolas, leur religion est synonyme d'espoir et d'amour, ce n'est pas la pensée dominante. Un jeune sur deux pense au contraire que c'est un facteur de division et de guerre.
Un reportage signé Willy Moreau. La météo, un seul mot aujourd'hui, du soleil. Il fera chaud également, 19 à 31 du nord-ouest au sud et même jusqu'à 34 degrés près de la Méditerranée.